Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 29 de la saison 2 de Dans le Mille, de retour après une petite pause de 2 semaines. Et puis ce soir, Jules ne peut pas être là à cause d'une maladie, mais pour le remplacer, j'ai Alex. Alex, tu veux te présenter un peu?
Yes, bonsoir, Alex Gagnon, passionné de hockey. Vous me connaissez peut-être sous le nom de La Première Ronde, là, c'est page sur X, Twitter. Je poste souvent, je publie souvent des classements des meilleurs espoirs, des faits saillants des meilleurs espoirs aussi, principalement pour le repêchage qui s'en vient, donc le 2024. Ça fait environ un an que je lis cette page-là.
Pour ceux qui suivent Alex, vous allez déjà le savoir, mais pour ceux qui ne le suivent pas pour le moment, Alex, c'est quelqu'un qui, comme nous, s'intéresse beaucoup aux prospects. Fait qu'il a vraiment séché le U18. Fait qu'on va vous parler de ça ce soir, puis on va vous parler de la loterie de la LNH qui vient de finir. Mais avant ça, je voulais juste remercier nos deux partenaires. Premièrement, QuickFeet, des semelles de performance que vous mettez dans vos patins, plus de stabilité, ça aide à performer. Avec le code sur la bande 10, vous avez 10% de rabais. Et puis, comme d'habitude, Elite Prospect, le site où on fait toutes nos recherches dans ce qui est statistique. Le site gratuit est déjà très complet, mais si en plus, vous voulez encore plus de statistiques, plus en profondeur, avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur un abonnement annuel. Donc écoute, avant de commencer aussi dans tout ce qui est prospect, loterie, je voulais juste rappeler à tout le monde que demain soir, les séries de la PWHL commencent. Ça va être Montréal contre Boston. Boston qui ont battu Montréal la fin de semaine passée. Donc ça va être une série qui risque d'être très serrée. Et puis, c'est meilleur de 5. Donc la première équipe qui gagne 3 matchs vont aller à la prochaine ronde. Et puis directement, vu qu'il y a juste 6 équipes dans la Ligue, c'est déjà les demi-finales. Donc ça risque d'être du hockey super intense. Directement. Donc, Alex, je ne sais pas si tu as regardé ça un peu, mais moi, j'ai vraiment hâte de regarder ça demain.
Oui, évidemment, on va regarder Montréal surtout. Ce qui me fascine aussi, c'est que Toronto, ils ont fini première, donc il y avait le premier choix pour les séries, puis ils n'ont pas décidé de prendre l'équipe qui a fini au 4e rang. Ils ont choisi l'équipe qui a fini au 3e rang. Fait que peut-être que Minnesota, qui était 3e, vont vouloir leur prouver que c'était un mauvais choix.
Oui, puis écoute, c'était cool parce que hier, avec Jules, justement, on s'en parlait, puis au début, on se demandait si c'était pas un coup de bluff que Toronto avait fait pour finalement révéler le vrai truc. Mais bon, écoute, ils ont cité les raisons de comment la Ligue a beaucoup de parité, puis que les deux équipes auraient été difficiles pour choisir ça. Mais écoute, tout à leur honneur de prendre l'équipe la plus haute.
Exact.
Pour revenir au hockey masculin, le gros sujet de la semaine, je pense que tous ceux qui nous regardent en ce moment doivent revenir de regarder cet événement-là. Ça fait 2-3 ans pour le Canadien que c'est une soirée qui est assez importante, qui est assez excitante. Donc, on sait maintenant 100% sûr que le Canadien vont choisir au 5e rang. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment aller chercher une pièce qui va... C'est un peu... Je pense qu'on est rendu au stade du rebuild où on va aller chercher un peu nos pièces qui vont venir compléter ce qu'on a déjà avec les jeunes qui s'en viennent pour avoir, tu sais, après le repêchage cette année, on devrait avoir une photo assez complète de quoi notre top 6 et notre top 4 défensif et offensif devraient avoir l'air quand on veut compétitionner.
Exact. Mais comme tu disais, le but, je pense, cette année, ça va être d'aller chercher la pièce manquante au casse-tête. Puis selon moi, ça va être un attaquant. Puis je pense que Kent Hughes vient de le mentionner dans une entrevue qu'à Talingale, il allait prendre un attaquant. Bon, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Là. L'an passé aussi, il avait sorti une citation de la sorte et on avait fini avec David Runbacker. Mais je pense que pour cette année, ouais, le choix va s'arrêter sur un attaquant, surtout qu'au 5e rang, il risque d'avoir plusieurs bons attaquants encore disponibles.
Puis écoute, pour nous lancer directement dans... On allait répondre à la question de toute façon, mais on se l'est fait poser en commentaire, fait que c'est parfait. Qui va être le premier choix du Canadien? Les deux, on s'en est parlé un peu avant le podcast. Les deux, on est arrivé avec une liste de 5 joueurs chaque. Puis finalement, je pense qu'on a une idée globale qui se ressemble beaucoup parce qu'il y a juste un joueur qui est différent. Écoute, je vais présenter les deux premiers. Tu présenteras tes deux ensuite, puis on dira c'est qui notre différent, puis pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant juste à prendre en considération. Fait que Mais les deux premiers, moi, qui me sont sautés en tête quand j'ai vu qu'on prenait au cinquième rang, puis, tu sais, on en parle un peu depuis quand même longtemps parce que ça fait longtemps qu'on s'attend à prendre 5-6e dans ce coin-là. C'est sûr que prendre premier, ça aurait été une belle surprise, mais bon. Les deux, moi, qui sont venus en premier en tête, c'était Berkeley Catton, tout simplement parce que, en tout cas, moi, dans mes classements personnels, il est tout le temps dans le top 4. C'est quelqu'un que, au niveau juste de talent, du joueur global qu'il est, je le mets toujours très haut. Je pense que un joueur avec une intelligence comme ça, puis à quel point son jeu aussi se transfère bien au rang professionnel, je le verrais mal raté, tu sais. Puis, m'attendais à ce qu'il descende un peu, mais je trouve qu'un talent offensif comme ça, on ne peut pas le prendre en considération à ce rang-là. Puis, le deuxième joueur, c'était TJ Ginla, qui, lui, un peu au contraire de Katten, a plus se prouver cette saison, dans le sens où, au début de l'année, quand on regarde les listes, Ginla, c'était pas surprenant de le voir, c'est des fois même en dehors du top 20. C'est un joueur que, à travers, à quel point il a montré qu'il était capable de faire du gros travail, puis à travers ses performances de la saison, a réussi à monter dans la liste de presque tout le monde. Puis en ce moment, on parle du cinquième choix, puis on parle de ce gars-là qui, au début de la saison, était, tu sais, même pas certifié dans le top 16.
Exact. Ben, pour ce qui est de TJ Ginla, tu as raison. En fait, il ne faisait même pas partie de l'équipe canadienne lors du tournoi Alinka Gretzky. Il était passé des moins de 18 ans. Fait que c'est pas peu dire. Là, il n'était pas considéré dans les 12-13 meilleurs attaquants canadiens l'été dernier. Là. Je sais qu'on choisit des fois les équipes selon les besoins. On veut peut-être une troisième, quatrième ligne, plus d'énergie, mais quand même, ça ne veut pas rien dire le fait qu'il n'était pas dans cette équipe-là. Tu sais, j'ai eu une ascension incroyable cette année. Il a énormément de caractère, un lancer des poignets vraiment bon, qui sort de son bâton extrêmement rapidement. Fait que là, je pense je suis assez confiant de dire qu'il va être repêché dans le top 10, puis qu'il serait un bon choix si le Canadien le choisit. Pour ce qui est de Berkeley Catton, c'est un joueur que j'adore, puis je vous le donne comme scoop là, pour la première ronde. Je vous garantis que Berkeley Catton va être dans mon top 5 à la fin de la saison. C'est un joueur que j'adore. C'est probablement lui que j'ai regardé le plus souvent cette saison parce que j'aime ça le regarder. C'est un
Ouais,
joueur
pareil.
très excitant avec la rondelle rapide. C'est un magicien qui repère ses coéquipiers d'excellente façon. Puis je reviens au tournoi Linka Gretzky du début de l'année alors que Ginla n'était pas là. Berkeley Catton, c'était le meneur offensif de cette équipe-là, c'était le meilleur joueur, puis c'est lui qui avait fait une différence dans le fond, pour que le Canada puisse remporter l'or.
Puis, je te laisserai rentrer directement dans les deux autres gars que nous, les deux, on avait mis dans nos cinq, mais que je n'ai pas encore présenté.
Exact. Mais premièrement, il y a Caden Lindstrom, qui pourrait possiblement être repêché par Columbus au quatrième rang, là, c'est à voir. Selon moi, le top 4 va ressembler à Macklin Celebrini, évidemment, aux Sharks. Ça, c'est une belle histoire parce que le père de Celebrini, directeur du développement du conditionnement physique pour les Warriors de Golden State, donc Macklin a probablement grandi un petit peu dans l'univers des Sharks. Je sais qu'il a joué pour les Baby Sharks là, quand il était plus jeune. Ensuite, au deuxième rang, Chicago, d'après moi, va opter pour soit Artem Levchunov, défenseur droitier, ou Ivan Demidov. Puis Anaheim va prendre probablement celui-là qui reste. Et au quatrième rang, c'est là que c'est plus un joker, là, le Columbus, soit Caden Lindstrom, peut-être on parlait d'Anton Silaïev, on verra. Mais mettons que Lindstrom est encore disponible au rang du Canadien. Ça pourrait être un bon choix. C'est un joueur qui, cette saison, a joué au centre beaucoup, mais qui, je crois, va être un ailier gauche dans la Ligue nationale, qui a toutes les aptitudes d'un bon ailier rapide, gros, fort le long des rampes, qui a des bonnes mains. Fait que ça pourrait faire du sens si on le place à gauche du deuxième trio. Tu aurais Juraj Slafkovský sur le premier trio, Lindstrom sur le deuxième. Ça pourrait être une excellente combinaison. L'autre joueur qu'on avait sorti les deux, c'était Cole Iserman, un excellent marqueur. On va parler du moins 18 ans tantôt, là. Il a réussi 9 buts en 7 matchs. Il a battu un record de Cole Caulfield pour le programme américain des moins 18 ans. Fait que c'est pas peu dire. Fait que je te laisserai aller pour ces deux joueurs-là.
Ouais, ben écoute, Lindstrom, moi, on y va d'avis personnel là, de ce que j'ai vu. Puis tu sais, je suis pas dans l'équipe de développement et rien, mais Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas lui que je prendrais au cinquième rang, mais pas nécessairement à cause de son niveau de jeu à lui, juste à cause de à quel point j'aime plus que les autres qu'on a mis dans nos cinq amènent. Mais pour rien lui emmener, puis écoute, quand on parle de Caden Lindstrom, on est obligé aussi de parler de taille. C'est sûr qu'avoir un allié comme ça, puis un autre joueur grand comme ça, dans le top 6 du Canadien, surtout avec le talent qu'il a, ça pourrait être quelque chose qui marche vraiment, vraiment bien. Puis si, écoute, l'équipe de développement le voit vraiment le spot, puis comment est-ce qu'ils veulent le développer dans le top 6 du Canadien. J'ai rien contre ce choix-là, c'est juste que personnellement, c'est pas mon préféré, mais encore une fois, tu sais, je suis pas dans l'équipe de développement. Puis pour Yzerman, encore une fois, il y a tellement de problèmes qu'on peut soulever avec son jeu, mais le niveau offensif, son placement offensif, son tir sont tellement à des niveaux élites qu'on est obligé de le considérer avec un choix de cinquième rang. Puis si le Canadien choisit Yzerman un peu comme avec Lindstrom, moi je pense qu'ils ont un plan clair sur où est-ce qu'il va rentrer. Puis Yzerman, moi je pense que c'est quelqu'un que si tu le mets dans la bonne situation, ça peut devenir un joueur complètement incroyable. Je ne pense pas que je bâtirais une équipe autour de quelqu'un comme Yzerman, mais pour venir justement, comme dans une situation où on est en ce moment, le Canadien, venir compléter un trio, si je pense que, admettons, oh, je le fais jouer à côté de Dak ou à côté de Suzuki, puis il vient mettre, tu sais, je suis confiant qu'il vient mettre des 40-50 buts par saison, bien c'est sûr que c'est la sélection que, tu sais, j'irais probablement faire.
Exact. Ben, parmi les quatre noms qu'on a nommés jusqu'à maintenant, je pense qu'on a trois compléments, puis on a un joueur qui peut mener son équipe. Dans le sens que Berkeley Catton est vraiment celui-là qui peut prendre une ligne sur son dos, rendre les autres meilleurs autour de lui. Tandis que Lindstrom, je l'ai souvent regardé cette saison, puis tu le regardes et il n'y a pas souvent la rondelle. Parce qu'il a joué avec Andrew Bashaw, parce qu'il a joué avec Gavin McKenna. Donc, ce n'est pas lui qui va mener son trio. Même chose pour Higginla, c'est plus un complément. Puis on l'a vu au moins 18 ans, justement. C'était pas nécessairement lui qui prenait la charge. Puis Yzerman, ben c'est un petit peu la même chose. Souvent, il va s'installer dans le haut des cercles, il va attendre la rondelle, puis il va la mettre dedans. Fait qu'on a trois joueurs du même type, dans le sens que c'est des compléments. Puis on a Catton qui pourrait plus prendre en charge une ligne, puis en faire son trio.
Puis. Écoute, pour nos derniers choix du top 5, donc les deux joueurs que les deux on avait sur nos listes, mais qui n'étaient pas la même dans chacune de nos listes, j'aimerais lancer, moi, j'avais mis Zane Parikh, pas nécessairement parce que moi, je le prendrais là, mais on avait reçu Adi de Double Prospect dans un autre de nos podcasts, si vous vous souvenez, puis si vous le suivez sur Instagram aussi, sur Twitter, ex Adi, vous savez qu'il aime beaucoup, beaucoup Parikh, puis nous, quand on parlait de Canadiens qui vont choisir 4, 5, 6e, c'est un joueur qui nous avait mentionné, puis qui dirait qu'il viendrait super bien compléter le Canadien, puis c'est une sélection que lui, il penserait fort, fort, fort à faire. J'aime beaucoup Zane Parikh, j'aime beaucoup son upside offensif, puis je pense que ses défauts défensifs sont exagérés. Est-ce que c'est le meilleur défenseur du repêchage en termes de défensive? 100% que non, mais je pense pas que sa défense soit autant horrible que quand on lit certains scouting reports, on pourrait penser. Par contre, tu sais, je pense pas que c'est ça qui manque aux Canadiens. Puis je pense que si c'est Zane Parikh, le meilleur défenseur de la liste des Canadiens, qui est disponible à ce rang-là, c'est pas lui que les Canadiens vont prendre. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette sélection-là?
Je suis un petit peu d'accord avec toi. Je suis pas le plus grand fan de Zane Parikh dans le sens que ses habiletés offensives sont indéniables. Puis c'est clairement le meilleur défenseur offensif du repêchage. Mais il y a des carences défensives. Puis c'est pas juste qu'il n'est pas capable de jouer défensivement, c'est qu'on dirait que parfois ça ne lui tente pas.
Ouais.
J'ai une séquence en tête au match des meilleurs espoirs, justement, au mois de janvier, où la rondelle est dans son territoire, puis lui, il est à la ligne rouge, puis il attend la rondelle. Il fait la job d'un ailier un peu, alors que c'est un défenseur. Moi, Zane Parikh, bien que je comprends si une équipe le prend dans le top 10, parce que offensivement, c'est juste incroyable. Je ne crois pas ne l'avoir dans mon top 10 à la fin pour les raisons que je viens de te donner.
Puis le dernier joueur que tu avais mis dans ton top 5, toi, c'était qui?
C'est un joueur qui a fait beaucoup parler de lui sur Twitter dans les derniers jours, là, qui s'appelle Beckett Seneca. qui joue pour les Generals d'Oshawa qui s'en vont justement en finale de la Ligue de l'Ontario contre les Knights de London dans les prochains jours. En ce moment, on parle de 22 points pour lui en série de la OHL, dont 10 buts. Il a été premier un bon bout de temps. Là, il s'est fait rattraper. Je sais qu'il a été blessé dans le dernier match, qu'il n'a pas joué dans le 7e match de la demi-finale. Mais on parle d'un grand joueur de 6 pieds 3, si ma mémoire est bonne, qui a grandi énormément dans la dernière année. Là. Je pense qu'il mesurait quelque chose comme 5 pieds 8 là, au début de l'année dernière. Fait qu'il y a une grosse progression au niveau physique, mais une grosse progression aussi au niveau de son jeu. On dirait qu'il se fait beaucoup plus confiance. Il a des mains en or, qui est souvent... Je publie des faits saillants sur la ouais. page de la première ronde, puis on dirait qu'il revient tout le temps. Tout simplement parce qu'il ne cesse de faire des jeux impressionnants, des montées à l'emporte-pièce, des passes incroyables à des coéquipiers. Fait que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais peut-être que le cinquième rang, c'est tôt pour lui.
Ben c'est ça. Je pense que Beckett Seneca, c'est vraiment que quand on regarde son jeu en série éliminatoire, c'est vraiment le type de gars que t'as envie d'avoir dans ton équipe, qui s'améliore. T'sais, ça, c'est un gros drapeau vert, là, si on peut dire ça comme ça. Un joueur qui s'améliore autant en une saison. Puis on peut dire la même chose pour un joueur comme TJ Ginla. Beckett Seneca n'était pas dans le top 10 de personne au début de la saison. Puis maintenant, c'est un joueur que t'es pas nécessairement obligé de mettre dans ton top 10, mais t'es obligé de le prendre en considération. Puis écoute, c'est juste incroyable ce qu'il fait. C'est juste qu'encore une fois, c'est un joueur que, comme tu dis, est-ce que je le verrais au cinquième rang? Peut-être pas, mais pas à cause de son talent à lui, vraiment à cause de qui est-ce qui est disponible. D'autres, tu sais, toi, tu as dit que tu aimais beaucoup Berkeley Catton. Moi aussi, j'aime beaucoup Berkeley Catton. Puis entre Beckett Seneca puis Berkeley Catton, c'est sûr que moi, j'irais pour Berkeley Catton. Mais si le Canadien finisse par aller pour Beckett Seneca, je vois absolument ce que ce joueur-là peut amener. Surtout qu'il y a le drive qui a montré que tu peux amener en série. Là. Un peu comme TJ Ginla, c'est un gars que tu veux dans ton équipe quand ça va être le temps des séries éliminatoires.
Exact. Puis la raison pour laquelle je l'ai mis dans les 5 noms possibles pour le Canadien au 5e rang, c'est que je sais que les Canadiens aiment ce type de joueur-là. Fait qu'on pense entre autres à Juraj Slafkovský, qui était clairement pas le meilleur joueur au moment où ils l'ont repêché, mais qui était ce qu'on peut appeler un « diamond in the rough », un joueur que son plafond est tellement élevé. Ben Beckett Seneca, c'est un peu le même genre, qui s'est développé vraiment rapidement et qui n'a pas fini de se développer. Là. Parfois, on dirait qu'il est toujours à veille de tomber, là, tellement il n'est pas habitué avec son corps. Là. C'est tellement nouveau pour lui d'être aussi grand. Mais quand il va s'habituer à ce corps-là, justement, à cette charpente-là, ça pourrait être dangereux avec les habiletés qu'il a.
Et ouais, je pense que ça fait un bon portrait un peu de qui est-ce qu'on pourrait voir dans le chandail du Canadien pour le top 5, puis au 5e rang. Puis maintenant, écoute, je voulais rentrer avec toi dans... parler de l'événement qui vient de finir dans le hockey. C'est un peu l'élément qui vient closer beaucoup des listes des repêchages. C'est sûr qu'il reste la Memorial Cup, fait que les listes ne sont pas définitives, mais qui aide vraiment à avoir à faire des choix entre deux joueurs qui sont un peu plus serrés. Puis c'est le U18 que le Canada a remporté après la finale en fin de semaine. Avant qu'on fasse nos analyses, moi, je trouvais ça important un peu de parler pourquoi est-ce que le U18, c'est pas nécessairement le tournoi sur lequel tu peux tout te baser. Puis, c'est qu'il faut garder en tête que tous les gars qui jouent dans ce tournoi-là, c'est des gars qui sont pas encore repêchés en LNH puis qui ont justement, comme le nom le dit, 18 ans ou en dessous. Fait qu'au niveau de jeu physique, il y a des joueurs qui sont pas encore à leur plein développement. Fait que les joueurs qui sont un peu plus physiques, un peu comme TJ Ginla, tu sais, je suis vraiment pas surpris de l'avoir vu exceller dans ce tournoi-là, vu que lui... le jeu physique, c'est déjà quelque chose qu'il maîtrise super bien. Puis aussi, il y a l'aspect défensivement. J'ai trouvé que les équipes dans ce tournoi-là étaient pas mal moins bien organisées que, admettons, quand tu regardes du hockey junior. Donc, c'est juste des choses à prendre en compte quand on regarde ce tournoi-là. Fait que, écoute, pour nous lancer là-dedans, moi, je te demanderais, c'est qui tes plus gros coups de cœur pour le U18 qui vient de finir?
Mes plus gros coups de cœur, ben écoute, on ne peut pas passer sous le silence. Les trois attaquants qui sont éligibles respectivement au repêchage de 2025 et 2026, là, je te parle de Gavin McKenna qui a été absolument incroyable, le meilleur attaquant du Canada, selon moi, le meilleur attaquant du tournoi aussi. Fait que 20 points en 7 matchs pour McKenna qui vient tout juste d'avoir 16 ans là, à la fin du mois de décembre. Puis je pense qu'ici qu'on peut parler d'un talent générationnel. Là. On parle beaucoup des McDavid, des Bedard, des Crosby, mais McKenna aussi, c'est un talent générationnel et c'en est un qui est vraiment unique parce que c'est rare, c'est ce type d'habileté-là qui est vraiment bon grâce à son intelligence sur la glace. Il n'y a pas la vitesse d'un McDavid, il n'y a pas la lancée de Bédard, il n'y a pas l'éthique de travail d'un Crosby, mais il y a vraiment un bagage d'habileté qui est unique à lui-même, il voit ses coéquipiers partout. Quand tu le regardes à la TV, tu es sur ton divan, tu ne vois même pas qu'il y a un coéquipier de libre, puis lui, il réussit à le voir. Fait que moi, il m'a vraiment impressionné, Gavin McKenna. Ensuite, un autre qui a joué pour le Canada, Porter Martone, qui est un gros attaquant qui, lui, devrait être repêché dans le top 3 l'an prochain, en 2025. Des bonnes mains, un excellent passeur. Et James Higgins, un Américain qui, lui, devrait être le premier choix normalement l'an prochain, en 2025. Un petit attaquant, je le comparerais peut-être à Jack Hughes. Donc, rapide, agile, d'excellentes mains, un très bon passeur lui aussi qui voit ses coéquipiers un petit peu partout sur la glace. Donc, au niveau des attaquants, ça serait ces trois-là mes coups de cœur. Puis j'aurais un autre coup de cœur aussi au niveau des Américains qui est Teddy Stiga. Qui est un attaquant vraiment intelligent, qui a une très bonne éthique de travail. Il a joué notamment en désavantage numérique pendant tout le tournoi. Il jouait sur le même trio que James Higgins, puis il a très bien paru avec 11 points en 7 matchs-là. Fait que lui, on parlait de lui possiblement un choix de fin première ronde, début deuxième, puis d'après moi, on devrait le voir sortir là, quelque part dans le top 20 au mois de juin.
Et, écoute, avant de rentrer dans les joueurs qui ont un peu plus déçu, moi, je voulais un peu ajouter à ce que tu as dit pour les attaquants. Tu as parlé de deux gars qui ne sont pas éligibles pour le repêchage de 2024, mais qui vont plus être pour 2025-2026. Il y en a un autre, moi, qui m'a vraiment sauté aux yeux chez Team Canada, c'est vraiment Malcolm Spence. Pas nécessairement parce que tu vois un produit fini dans son jeu. C'est un peu comme quand tu le regardes jouer dans le junior. C'est un petit peu difficile de le projeter pour le moment parce qu'il est encore en train de faire ses premiers pas dans cette ligue-là. Mais contre des joueurs de 1 ou 2 ans plus vieux que lui, 1 an, au U18, je l'ai trouvé vraiment excellent. Un joueur qu'à chaque fois qu'il est sur la glace, il va t'amener de l'énergie, mais qui, en plus de ça, est-ce que c'est le joueur du tournoi qui a le plus de skills? Non, mais je trouve que ses autres habiletés sont tellement hautes que ça compense un peu pour ça. L'énergie qu'il amène, à quel point est-ce qu'il est déjà à l'aise avec un peu la physicalité des gars plus vieux, puis ça, on le voit dans le junior aussi, puis aussi, écoute, on peut pas passer sans mentionner son tir aussi. Puis à quel point est-ce que c'est un gars qui est capable de vraiment suivre son instinct? Donc, il y a des moments où tu te dis, hey, il est peut-être pas en position de tirer. Il tire, puis ça marche. Là. C'est vraiment un gars qui s'écoute puis qui a une belle vision du jeu, mix avec une excellente énergie. Là. Dès qu'il est sur la glace, il se passe des choses pour Canada.
Exact. Bien vu, Renaud. En fait, Spence, comment je pourrais le décrire? Puis c'est ce que j'ai écrit justement sur ma page Twitter la première ronde. Là, j'ai sorti mes notes du tournoi. Spence, quand il est sur la glace, c'est le joueur le plus rapide, c'est le joueur le plus travaillant à chaque fois. Il a une éthique de travail incroyable. Il patine comme le vent. Puis ça te prend des joueurs comme ça dans ton équipe. Justement, au tournoi Linka Gretzky l'été dernier, c'est lui qui avait marqué en prolongation pour donner la victoire au Canada. Fait que ça montre sa force de caractère.
Puis, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont un peu plus déçu, de qui tu t'attendais à des plus grosses performances, puis que finalement, quand tu les as regardés, tu les as trouvés un peu moins excitants que prévu?
Oui, il y en a un qui est un joueur que j'aime, en fait, c'est Konsta Elenius de la Finlande. C'est un joueur que j'avais vraiment apprécié au Mondial des moins de 20 ans dans la période des Fêtes. Un joueur intelligent qui a eu une saison incroyable dans la Liga en Finlande. Je m'attendais un petit peu plus de lui dans le tournoi des moins de 18 ans. Je me disais, il va arriver contre des joueurs plus jeunes ou des joueurs de son âge, puis il va dominer. On parle de 7 passes en 5 matchs pour Elenius. Puis ce qui m'a déçu, c'est que j'ai trouvé que je parlais de Katten qui est capable de mener son équipe tantôt, mais Elenius, je ne pense pas que c'est le joueur qui peut faire ça. Je pense que ça va être plus un complément dans la Ligue nationale, peut-être un centre, un ailier de deuxième trio qui va devoir avoir des joueurs avec lui qui ont plus d'habileté, qui ont plus de patins pour réussir. Je peux en nommer un autre, un joueur qui jouait pour le Canada, Liam Greentree, un joueur que je crois la glace finlandaise, qui est une glace hybride, ne l'a pas aidé parce que ce n'est pas le plus grand patineur. Il a des bonnes habiletés, il a un bon lancer, mais ce n'est pas celui qui patine le plus vite. Green Tree m'a vraiment déçu. En fait, on ne l'a pratiquement pas vu pendant le tournoi. Là. Puis, je m'attendais vraiment qu'il puisse monter son jeu d'un cran et qu'il puisse peut-être qu'on puisse parler de lui comme un choix top 15, assurément, mais je pense que ça ne sera pas le cas.
Ah, bien, écoute, c'est super intéressant que tu finisses avec Green Tree parce que justement, pour continuer, je voulais qu'on parle un peu d'autres gars de surtout Canada, mais aussi un peu d'États-Unis, avoir un peu ton avis sur certains de ces gars-là, puis un peu donner des analyses là-dessus. Mais justement, deux gars que j'avais pris en note que je voulais parler pour continuer, c'était Green Tree puis Maxime Massé. Je pense qu'au tournoi U18, surtout en finale, Maxime Massé a un peu mieux performé, mais ce que moi, ce tournoi-là m'a un peu laissé comme impression de ces gars-là, c'est que les deux ont des habiletés qui sont indéniables. Green Tree puis Massé ont un jeu physique, mais ils ont des aspects qui leur manquent qui fait que je ne les verrais pas nécessairement comme des gars que tu vas choisir pour aller prendre sur un top 6 LNH. Donc, c'est pour ça que tu sais, je suis un peu d'accord avec toi que c'est des gars que je verrais. Green Tree va moins descendre que Massé. Là. Je pense qu'il va être pris bien avant. Mais quand même, tu sais, avec un choix de top 15, est-ce que tu vas vraiment prendre un gars que tu verrais sur ton bottom 6, même si tu penses que ça va être un très bon gars de bottom 6? À mon avis, non. Puis je pense que Massé et Green Tree, même dans les matchs où ils ont le mieux performé, c'était vraiment en tant que role player, comme on dit. Donc, tu sais, quelqu'un que tu vas mettre sur ton troisième trio, qui va ajouter de l'intensité au match, qui va ajouter de la physicalité, mais que ça ne va pas être la star qui va tout mettre. Tu sais, c'est vraiment des gars qui supplémentent bien un paquet qui est déjà complet. Donc, dans Team Canada, cette année, il rentrait dans un certain rôle, puis quand il faisait ça, ça allait bien, mais effectivement, Green Tree, ce n'est pas quelqu'un que je pense que si tu mets sur tes deux premières lignes, tu peux dépendre de lui et qu'il va t'emmener super loin.
Je suis d'accord. Dans le cas de Massé, peut-être un petit peu mieux paru que Green Tree. Notamment, il a amassé des buts sur l'avantage numérique. Il a été efficace en désavantage numérique aussi. Mais Max, dans le fond, c'est un joueur que j'adore, qui a grandi pas loin de chez moi à Rimouski, que je connais bien. Mais clairement, dans ce tournoi-là, tu as vu qu'il manquait de vitesse. Puis, ça tombe bien, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui s'améliore. Mais tu as vraiment vu qu'il était exposé là, à son manque de vitesse contre des joueurs plus rapides.
Et par curiosité, Maxime Massé, quand on parle de son jeu en LHGMQ, toi, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Moi, je pense que c'est un joueur, on avait fait une analyse dessus, fait que ceux qui nous regardent le savent déjà un peu ce que je pense, mais je trouve que c'est un joueur qui se cherchait beaucoup, avait un peu de misère à trouver quel type de joueur il voulait être. Il y a des matchs où il ressemblait beaucoup à un sniper, puis il y a d'autres matchs où il ressemblait un peu à un power forward qui va aller plus se mettre devant le filet pour aller faire des petites passes, des choses comme ça, se battre pour la rondelle.
Tu as raison, c'est vrai. Je pense que le fait qu'à Chicoutimi, qui avait une équipe très, très jeune cette année, à 17 ans, Maxime Massé s'est ramassé comme le meneur offensif de cette équipe-là. Puis normalement, les joueurs de 17 ans n'ont pas cette pression-là, mais lui, il n'avait pas le choix de le faire. Fait que oui, on lui demandait de marquer des buts, mais sûrement qu'on lui demandait également d'être bon dans les deux sens de la patinoire, de mieux repérer ses coéquipiers, d'être présent au filet, etc. Alors qu'il est plus habitué d'être de lire le jeu, d'être plus en périphérie, d'attendre qu'une occasion se présente. Mais puis ça, on l'a vu bien le faire, notamment après le match des espoirs, là, il s'est grandement amélioré à ce niveau-là. C'est un joueur qui va être bon dans l'enclave. Qui va marquer des buts, qui va lever le bâton de l'adversaire pour reprendre la rondelle, faire une passe ou lancer au filet. Il a un bon gabarit, puis il a un bon lancer, donc il va être bon dans l'enclave, mais au niveau vitesse, c'est peut-être pas sa force.
Puis pour finir un peu sur Team Canada au U18, je me demandais un peu, moi, un joueur qui m'a vraiment surpris, c'était Brunic, mais pas nécessairement parce qu'il a bien fait les choses qu'on savait déjà qu'il faisait bien. Donc, tu sais, quand il est arrivé, puis qu'il soit imposant en défense, qu'il soit physique, qu'il pousse, c'était pas nécessairement quelque chose qui m'a surpris. Moi, ce qui est vraiment venu me chercher de lui dans le tournoi, puis tu sais, à ce tournoi-là, je connais pas nécessairement les numéros de tous les joueurs. Fait que souvent, quand je regarde un match, je vais dire, le numéro 16 a fait quelque chose de super beau. OK, je le note. Qui sait que c'est finalement, puis tu sais, finalement, c'est Caleb Denoyer ou bien c'est McKenna, peu importe. Là. C'est sûr qu'à la fin, tu commences à connaître un peu les numéros, mais tu sais, au début, c'est surtout ça que ça marche. Puis souvent, je me suis retrouvé à, OK, un défenseur qui s'avance au bon moment, qui fait un beau jeu en zone offensive, Puis finalement, ce défenseur-là, quand je regardais c'était qui, souvent c'était Brunic. Fait que moi, je l'ai mis dans les joueurs que j'ai beaucoup aimé du tournoi parce qu'il m'a montré un aspect de son jeu auquel je m'attendais moins. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça va continuer à se développer. Puis encore une fois, je pense que il y a tellement de joueurs qui ont ce potentiel-là dans le repêchage de cette année, donc des grands défenseurs qui vont amener, en plus de leur gabarit, un upside offensif. Mais je pense qu'il m'a vraiment mis sur son radar. Là. Je ne pouvais pas l'ignorer pendant le tournoi.
Je suis 100% d'accord avec toi. C'est un des joueurs que j'ai le plus apprécié chez le Canada, mais dans le tournoi complet, la preuve, c'est que j'ai passé très, très près de le mettre sur mon équipe d'étoiles du tournoi. Mais Harrison Brunecki, excellent défenseur, un bon gabarit, des bons pieds, rapide. Puis honnêtement, je l'ai trouvé hésitant en début de tournoi. Puis la raison est probablement simple, dans le sens qu'il n'avait pas joué depuis le mois de février. Là. Il avait été blessé à partir du mois de février. Donc, ça lui a pris un ou deux matchs à se mettre en branle, mais après ça, tu as vraiment vu ce qu'il était capable de faire, ouais. Se porter à l'attaque. Souvent, il faisait une petite passe sur la bande à partir de la ligne bleue. Il joignait l'attaque vers le centre, il recevait la rondelle à nouveau, pouvait prendre un lancer ou rediriger une passe à un adversaire. Il l'a fait souvent, puis il était très bon pour le faire. Mais j'ai aussi remarqué, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement vu à Kamloops, parce que son équipe était atroce, il était vraiment mauvais. Puis dans sa zone, souvent, c'était des surnombres, mais il est excellent en défensive. Il a un bon bâton, puis en désavantage numérique, il était vraiment bon, il était stable. Selon moi, oui, il y a Henry Muse qui a été très bon dans le tournoi, mais je crois que Brunecki était le meilleur défenseur du Canada, selon moi.
Puis, écoute, juste parce qu'on parlait d'un défenseur, puis justement du upside offensif qu'il y a, puis à quel point il y en a dans le draft-ci, juste une question, un joueur qui n'a pas joué au U18 cette année, mais je suis curieux d'avoir ton avis dessus, parce qu'il est super controversé un peu. Il y a des gens qui vont le mettre 16e et des gens qui vont le mettre 6e, 7e dans leur liste. Qu'est-ce que tu penses de Yakimchuk?
Yakimchuk, c'est un joueur que j'aime bien. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Je te dirais que je vais l'avoir à peu près 12, 13e, peut-être 11, 10, 11e à la rigueur, là, mais je ne crois pas qu'il va percer mon top 10, tout simplement parce que, premièrement, c'est un late. Donc, c'est un joueur qui est né après le 15 septembre. Fait qu'il est passé très près d'être repêché l'année dernière. Fait que ça peut expliquer pourquoi physiquement, il est aussi dominant que ça. Ça, c'est une première raison. Puis deuxièmement, il est très propice aux crampes au cerveau. Fait qu'il, souvent, il a la rondelle sur sa palette. Il a le jeu facile qui est à faire à gauche, mais il va aller à droite sans aucune raison. Il va essayer de passer la rondelle entre les deux patins de l'adversaire. Il se fait intercepter, ça retourne de son côté et ils se font marquer. Fait que, oui, il a des habiletés incroyables. Il patine très bien pour son gabarit. Il a un lancer frappé dévastateur là, de la pointe. Il a marqué plusieurs buts de cette façon-là en avantage numérique. Mais comme je te disais, je me situe plus entre les deux de mon côté. Fait qu'on parle entre le 10 et le 13e rang pour Yakimchuk.
Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est quand même c'est un joueur que c'est sûr que son upside est super intéressant, mais c'est un projet. C'est vraiment un risque. Là. C'est pas un pick que tu vas. C'est pas comme un sure shot, un peu comme on dit. Là. C'est pas le joueur le plus safe à aller. Puis écoute, ça peut vraiment rendre des équipes plus froides à le prendre dans le top 10. À moins qu'une équipe le voit vraiment comme. T'sais, le voit exactement où est-ce qu'il rentrerait dans leur ligne défensive, puis ce qu'il peut amener à leur équipe. Fait à voir sur le à la soirée du repêchage, là, ça pourrait être quelqu'un qui surprendrait à quel point il va être pris haut, mais je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont le trouver un peu trop risqué pour aller le chercher dans le top 10, malgré tout l'aspect qu'il amène, là, parce que ce gars-là a plein de points positifs. Pour revenir sur le U18, il y a deux autres gars de Team USA que je voulais te parler. Tu as parlé de Stiga, c'est sûr, son tournoi a été incroyable, mais il y a un autre gars qui a joué super bien pendant le tournoi, mais écoute, il y a une question qui va être vraiment difficile à placer, un Trevor Connolly. Tout d'abord, est-ce que toi, si tu étais une équipe de la LNH, tu le mettrais sur ton no draft list, puis est-ce que où est-ce que tu irais le prendre? Au niveau du talent, c'est sûr que c'est un des gars que, encore une fois, il faut que tu prennes en considération pour le top 10, mais avec les histoires qu'il y a eu dans le passé, puis là, en plus, on le voit en finale, aller prendre une punition complètement inutile, mettre son équipe dans le pétrin, puis tu sais, être une des grosses raisons pourquoi son équipe a perdu le match, pas à cause de comment est-ce qu'il jouait, mais à cause de cette décision-là. Où est-ce que tu te situes par rapport à ce gars-là maintenant que ça c'est fait?
Pour répondre à ta question, non, je ne le placerai pas sur ma no draft list, mais je le placerai assez loin pour ne pas le repêcher. Dans le sens que je voudrais qu'une équipe fasse la job à ma place. Puis si jamais, mettons, là, il est disponible au 22e rang au jazz, ben là, tu n'as comme pas le choix. Tu dis, bon, c'est clairement le gars le plus talentueux qui est présent sur le tableau. Je vais m'organiser avec son attitude. Je vais faire en sorte de bien l'entourer. Là, je pourrais le repêcher. Mais quand tu penses à Connelly, c'est des habiletés incroyables. Patine comme le vent. Il a des mains, il est créatif. On l'a vu justement faire un but à la Michigan pendant le tournoi. Là. Mais premièrement, je trouve qu'il n'est pas capable d'assez bien repérer ses coéquipiers. Mais pas qu'il n'est pas capable. Des fois tu le vois bien le faire, mais on dirait que ça ne lui tente pas. Il veut faire son show. On dirait qu'il veut tout simplement faire des tours autour des cônes sur la glace.
Ouais.
Il a l'air de Guy Lafleur là, quand il patine. Là. Il monte la rondelle, puis il patine vite, puis il est vraiment impressionnant, mais c'est ça, ça s'arrête là, puis je ne sais pas à quel point ça va être utile dans la Ligue nationale.
Alors moi, je pense vraiment que c'est un choix que honnêtement, être une équipe LNH, je ne pense même pas que je mettrais un choix de première ronde sur lui, juste par l'aspect négatif qu'il peut amener dans une chambre. Tu sais, là, en ce moment, ce qu'on a, c'est un peu l'histoire qui sont passées dans le passé. On le voit comment il est sur la glace, mais j'aurais trop peur de l'aspect négatif. En tout cas, si je dirais le prendre avec un choix de première ronde, c'est sûr que ce gars-là, il aurait passé 4-5 entrevues de pré-repêchage avec l'équipe avant. Parce que c'est sûr que l'aspect offensif est super intéressant, mais tu sais, un ajout comme ça, ça peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal à une équipe dans juste la cohésion dans le locker room. Puis tu sais, moi je le vois un peu comme un gars qui va finir un peu à la Tony D'Angelo, là, le type de gars que tu vas regarder sa carrière puis tu vas être comme, ah, qu'est-ce que ça aurait pu être, mais que finalement se retrouve, tu sais, en ce moment Tony D'Angelo était disponible à la date limite des échanges, personne l'a pris. Fait que Trevor Connelly, ça pourrait être ça, si même il se rend à la LNHP. Comme deuxième joueur de l'équipe, Team USA, on en a parlé un peu tantôt, parce que c'est sûr qu'il faut le prendre en considération avec le choix au 5e overall, mais comment tu as trouvé le tournoi de Cole Eisenman? Puis c'est quoi ta vue globale de ce joueur-là maintenant que ce tournoi-là est fini?
Bien, Cole Eisenman, c'est un marqueur incroyable. Il est toujours en bonne position pour marquer. Il réussit à bien trouver ce qu'on appelle les soft spots, là, les endroits où la défensive n'est pas présente pour marquer, pour recevoir la rondelle, avoir une bonne chance de marquer. En avantage numérique, c'est tout simplement c'est un automatisme. À chaque fois qu'il a la rondelle, on dirait qu'elle se dirige dans le filet. 9 buts en 7 matchs, comme je le disais tantôt. Puis j'ai aussi découvert que c'était un passeur sous-estimé. Il ne fait pas beaucoup de passes, il aime ça lancer au but, mais quand il en fait, ils sont belles. Il est capable de bien repérer ses coéquipiers pour souvent des bonnes chances de marquer. Il est physique aussi, il est gros, il a une bonne charpente, il est solide, mais je trouve un petit peu qu'il travaille dans le vide. On dirait qu'il travaille pour impressionner un peu les recruteurs. Là. Il va finir une mise en échec, mais il sort complètement du jeu. Il patine pour aller en échec avant, mais il n'aurait pas besoin de le faire. Là. C'est ça. J'ai comme l'impression qu'il travaille dans le vide, mais comme tu disais, tu peux pas passer outre ses qualités de marqueur. Ça, c'est clair. Il devrait figurer dans mon top 10. Là. S'il n'est pas dans mon top 10, il va être juste après. Mais un excellent marqueur.
Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le joueur qui m'a le plus mitigé pour le repêchage cette saison. Là, il y a des matchs où on le voit, puis j'ai pas, même pas envie de le mettre dans mon top 15. Puis il y a d'autres matchs où t'es comme moi, clairement, tu sais, avec n'importe quel choix que le Canadien aurait, tant que c'est genre 4, 5, 6, j'irais le prendre dans ce coin-là. Puis il y a même des matchs où, tu sais, ou bien des tournois où, comme le 18, quand tout clique, j'ai l'impression que c'est le type de. Tu sais, tu pourrais faire un cas pour lui en numéro 3, puis. J'aime beaucoup, beaucoup Demidov, fait que c'est sûr à 100% que je le mettrais jamais à la place de numéro 2. J'aime beaucoup Demidov, mais tu sais, je pourrais comprendre un autre recruteur ou un autre amateur de scout, de prospect qui va aller le mettre à cet endroit-là même, parce que le talent pour se placer en zone offensive, puis les tirs, c'est vraiment quelque chose qui est élite. On n'en voit pas beaucoup des gars à cet âge-là qui ont des tirs comme ça.
Exactement, puis... Les équipes de la Ligue nationale, il faut qu'ils soient conscientes aussi que c'est un joueur qui doit être entouré. Tu peux pas, mm-hmm. tu peux pas le placer dans une équipe où il n'y aura pas de passeur avec lui. C'est sûr à 100% que ça ne marchera pas. La preuve, au moins 18 ans, c'est qu'il a marqué beaucoup de ses buts en avantage numérique quand James Huggins était sur le jeu. Il n'en a pas beaucoup marqué à 55 alors qu'il jouait avec Max Plant et Camille Benarik, qui ne sont pas des grands joueurs offensifs avec beaucoup d'habileté. Fait que je pense à une équipe comme Seattle, par exemple. Oui, au 8e rang, ça pourrait être un bon choix, mais avec qui tu vas le placer? Matty mm-hmm. Benner, ce n'est pas un passeur incroyable. Shane Wright non plus. Cole Eiserman serait un petit peu tout seul à Seattle en termes de son type d'habileté.
Puis, écoute, pour finir l'épisode cette semaine, on s'en était parlé un peu plus tôt, mais toi, tu as vraiment regardé tous les matchs U18. Fait que, tu sais, je vais te poser une question. Tu m'as dit qu'il y avait un joueur de la Slovaquie puis un joueur de la Suède que tu as beaucoup aimé. Fait que, tu sais, pour les équipes qu'on a, si vous êtes fan de Team Canada ou bien que vous regardez, tu sais, surtout USA ou Team Canada, deux joueurs que les gens pourraient potentiellement avoir ratés.
Oui, bien, il y en a un de la Slovaquie, comme tu as dit, qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles du tournoi, Luka Radivojevic, éligible au repêchage l'an prochain en 2025. Un petit défenseur, très agile, très rapide, excellent en avantage numérique. Là, clairement, c'était le meilleur joueur de son équipe. C'était même pas serré. Bon espoir pour l'an prochain, même s'il n'est pas très gros. Et un autre au niveau de la Suède, qui est Alphonse Frey, qui est un défenseur très mobile que j'ai appris à connaître dans ce tournoi-là. Honnêtement, là, lui, il jouait dans une équipe des moins de 20 ans en Suède là, pour Växjö. Puis c'est pas une ligue qui est facile à regarder jouer. Il n'y a pas beaucoup de télédiffusion de cette ligue-là. Je ne l'avais pas beaucoup vu, mais au moins 18 ans, il transporte la rondelle, il est capable de bien repérer ses coéquipiers en zone offensive. Puis aussitôt qu'il prend la rondelle derrière son filet, on dirait que la défensive de l'autre équipe recule parce qu'ils savent qu'il est plus rapide qu'eux. Et qu'il le respecte énormément. Fait que souvent, pour réussir à entrer en possession de la rondelle dans la zone, Frey il est capable de le faire. Aussi, on n'a pas parlé de Cole Hudson, qui a été nommé meilleur défenseur du tournoi, donc le frère de Lane, qui a des habiletés similaires à Lane. Très, très bon avec la rondelle, excellent passeur. Il a un meilleur lancer que Lane Hudson, je crois, mais un petit peu moins bon dans sa zone. Lane Hudson, souvent réussi à trouver des façons de lever les bâtons ou travailler plus fort que l'adversaire pour reprendre la rondelle. Je ne vois pas nécessairement ça avec Cole Hudson.
Ben écoute, Alex, merci d'être venu avec nous pour ce soir. Puis écoute, j'espère qu'on a l'occasion de se reparler plus proche du repêchage. Peut-être quand tu vas sortir, tu pourrais voir-tu sortir une liste de top 10, un mock, quelque chose dans le genre?
Oui, ben clairement, un classement, un top 32 quelque part au mois de juin, puis probablement un mock draft aussi dans ces alentours.
Ben super, j'espère qu'on va pouvoir te revoir au podcast avec quand Jules sera en santé pour qu'on puisse discuter d'un peu de ça plus en détail. Fait que merci d'être venu avec moi ce soir.
Merci d'avoir reçu.
Bonne soirée tout le monde, merci d'avoir regardé.